Merci, mon Dieu. Merci Seigneur d'être au milieu de nous. Merci pour ta présence. Nous saluons ta présence, ô notre Dieu. Nous te bénissons. Nous t'élevons, ô Seigneur. Nous glorifions ton Saint-Nom. Et nous te disons Alléluia. Merci, ô notre Dieu. Prépare nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts. Nous sommes venus. Et nous exposons nos cœurs, Seigneur, à ta sainte présence. Déverse sur nos cœurs le précieux sang de Jésus-Christ. Nous te soumettons nos cœurs, ô notre Dieu, afin que tu les nettoies pour recevoir ta parole et pour recevoir les bénédictions que tu as réservées pour ce jour. Notre Dieu et notre Roi, règne en ces lieux. Règne et que toute autre voix se taise. Règne Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, ce soir nous continuons le thème qui a été commencé hier par la sœur Christiane. Dis à ton voisin, sois le bienvenu. Tu es béni. Hier, ce thème a été introduit par Éphésiens 1, les versets 3 à 14. Nous avons vu beaucoup de choses. Et je voudrais rester sur un seul verset, Éphésiens chapitre 1, le verset 8, qui nous dit la richesse de sa grâce répandue abondamment sur nous. Pour toute espèce de sagesse et d'intelligence. La sœur a fini son exposé hier par croire au travail, mode d'activation des bénédictions spirituelles. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec les autres modes d'activation de ces bénédictions spirituelles, à savoir insister sur le donner, insister sur le semer, insister sur les sacrifices, insister sur la reconnaissance. Ensuite, nous verrons pourquoi, malgré ces bénédictions, il y a quand même la pauvreté chez beaucoup de personnes, même qualifiées. Chez les Africains en particulier, c'est certain. Nous terminerons par la bénédiction de la santé divine. Bien-aimés, nous sommes bénis en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi donc? Des personnes éduquées avec des qualifications. Et on a même dit la majorité des Africains demeurent-ils dans la pauvreté? Hier, Matthieu 6, 33 nous disait « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. » Et elle a exhorté au changement de mentalité. Il y a un problème avec la mentalité. Les gens ont toutes les qualifications possibles, mais il leur manque l'éducation financière. Par exemple, on n'apprend pas à l'école comment être correct en matière d'argent, comment gérer. Et mais quand bien même on aurait appris cela à l'école, c'est que beaucoup de personnes qui sont en prison sont généralement même ces gens qui ont été formés pour bien gérer.
Des gens sont formés pour être employés. Au lieu d'être formés pour être entrepreneurs, pour créer eux-mêmes du travail. Ça, tout le monde prend conscience de cela. Mais les solutions ne sont pas là. Après leur diplôme, leur qualification, les gens ne veulent plus étudier. Et ça, c'est une mauvaise mentalité. Les informations n'intéressent pas les gens. Alors que, lorsque l'informatique est arrivée, lorsque les téléphones portables, Android, sont arrivés, chacun s'est battu pour s'adapter. Il fallait une formation pour s'adapter. Nous devons comprendre que la formation, c'est pour tous les jours. Et nous devons nous intéresser à tout ce qui est stratégique, tout ce qui est information stratégique, tout ce qui peut ajouter quelque chose à nos compétences. Le pasteur Christ disait qu'il ne faut pas rater les opportunités que le Seigneur met devant nous. Et souvent, beaucoup de personnes, bien que qualifiées, n'ont pas l'humilité de penser qu'ils peuvent faire autre chose. Ils n'ont pas l'humilité de s'intéresser à ce que les autres font. Parce qu'ils peuvent apprendre de ce que les autres font. Chacun a une expérience dans le domaine où il se trouve. Il n'y a pas un domaine où on peut se faire valoir sans apprendre. Plusieurs ont perdu leur emploi et manquent d'opportunités de redéploiement. Pourtant, nous devons être excellents chaque jour. Nous devons nous rendre indispensables de façon que un patron ou quelqu'un qui nous emploie ne puisse pas nous mettre à l'écart. Ça, c'est encore parce que Christ donne ce conseil. Que chaque enfant de Dieu soit excellent, compétent, de façon qu'il soit impossible de le dégager de son poste. Parce que le monde, c'est le monde de l'intérêt. Comme ils cherchent l'argent, ils seront obligés de nous utiliser. Voilà le conseil qu'il donne. Une autre difficulté, pourquoi les chrétiens sont, certains chrétiens sont pauvres, c'est que même ceux qui touchent de l'argent gaspillent cet argent. Ils ne savent pas ou ils font semblant de ne pas savoir qu'ils doivent simplement satisfaire les besoins essentiels et investir le reste d'argent. Dieu a besoin de cet investissement. C'est pour ça que vous allez voir les gens dépenser dans les plaisirs, les distractions, les toilettes somptueuses, les bijoux. Vous voyez une jeune dame qui ne travaille pas. Elle a un sac de bijoux. Quand, si vous amenez chez un bijoutier, vous estimez, on va vous dire, c'est 600 000. Les bijoux de 600 000, tu ne travailles pas. Ça te sert à quoi? Je parle des bijoux, non? On accroche à gauche, à droite, pour le paraître. Ça rapporte quoi? Les prostituées font ça pour chercher l'argent. Ça rapporte quoi? Les 500, les 600 000 là, pouvaient créer une ferme. Une petite ferme. où on peut employer même deux personnes. Les gens dépensent. On vend la chaussure à 15 000. Mais si la chaussure, ce n'est pas 150 000, 200 000, tu ne peux pas acheter. C'est l'esprit de pauvreté, c'est la mentalité de pauvreté. Il y a des voitures. La voiture est bien, c'est utile, c'est un utilitaire. Mais tu fais quoi avec la Rouma? Tu roules à Bafoussam avec la Rouma. Même aux États-Unis, les gens n'achètent pas la Rouma. Ils ont fabriqué ça pour contenter ceux qui veulent jeter l'argent par la fenêtre. Mais tu achètes, tu roules pour qu'on te voie. Et après, l'argent qui pouvait servir, après on va se plaindre, pas bien est monté, pas bien est descendu. L'argent de la Rouma là peut créer le travail pour 1000 personnes. 1000 personnes. Investir, c'est assurer notre liberté. La parole de Dieu nous dit dans Jean 8, 36, que lorsque Christ nous a franchis, nous sommes vraiment libres. Or, investir nous donne cette liberté sur le plan économique. Parce que là, nous sommes patrons. Et comme c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, ça fait du bien à tout le monde. Par contre, si cet argent est entre les mains de ceux qui se fichent de Dieu, ça ne peut aider personne. Ça sera gaspillé. Investir va rendre ton prochain heureux. Parce que tu vas produire du service. Il y aura les produits. Il y aura les emplois. Ça va diminuer les peines des gens. Et quelqu'un a même dit qu'il y a la pauvreté dans les racines de certains Africains. Bon, je ne sais pas, mais si on regarde de près, on va voir quand même qu'il y a des choses à se reprocher en tant qu'Africain. Et un de ces coachs en affaires, comme dit le manuel, mentionne 5 raisons. Qui justifie cette pauvreté? La raison de tout à l'heure, nous ne nous intéressons pas lorsque nous avons ce que nous allons manger ou dormir. On vit dans la suffisance. Les gens ne savent pas que Dieu les a mis sur la terre pour vivre de façon que ça glorifie son nom. Les gens négligent donc les informations, ils négligent les formations. Et on peut même les appeler les illettrés. Pourtant, ils ont tous les diplômes du monde. Je vais prendre un aspect. Nous mangeons mal. Nous mangeons mal parce que nous ne sommes pas informés sur le plan alimentaire. Nous combinons même les éléments qu'on ne doit pas combiner dans la nutrition. Ça crée les poisons dans notre corps. Je ne veux pas jouer le rôle du nutritionniste, mais ils le savent. Généralement, nous trouvons que notre faiblesse, notre manque, notre pauvreté, ça vient des autres. Toute chose négative dans notre vie, ça vient des autres. On a appelé ça la mentalité de victime. Or, un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vit en lui. Il doit abandonner cette mentalité de victime. Parce que son garde du corps, le Saint-Esprit, sans compter les anges, je ne vois pas ce qui peut encore être néfaste ou nuisible jusqu'à l'influencer. y a la mentalité de dépendance. On veut toujours être aidé. Toujours être aidé. Même nos pays. Tous les jours, quand on gagne de l'aide quelque part, en Chine, en Europe, aux États-Unis, on est très content. Les gens même, même ceux qui ont, ils veulent toujours recevoir. Ils ne pensent pas aux autres. Cette mentalité n'est pas bien. Et l'autre mentalité qu'on a dénoncée, c'est le fait de penser que le meilleur, c'est ailleurs. Ce n'est pas là où nous sommes. C'est en Europe. C'est dans les autres pays. Ce n'est pas au Cameroun. Ce n'est pas à Bafoussam. Tout simplement parce qu'on a l'esprit de facilité. On a l'esprit du vite fait. On aime les raccourcis. Et cette mentalité n'est pas bien pour quelqu'un qui veut jouir de la bénédiction. D'ailleurs, on ne peut pas aller loin avec cette mentalité. Il y a la mentalité de corruption. Ça, il faut changer. La corruption ronge tous les secteurs de la vie, même de la vie des chrétiens. S'ils ne sont pas eux-mêmes tentés par la corruption, ils seront victimes de la corruption. Il faut y ajouter la mentalité magique. Magique. Pourquoi le PMUC fait long chemin chez nous? Parce qu'on croit, on a la mentalité qui fait croire que tu peux investir 100 francs et avoir 50 millions. La mentalité du non-effort. Il y a la mentalité tribale. Nous en sommes tous victimes. Or, nous devons activer nos bénédictions spirituelles pour en jouir. Les autres modes d'activation des bénédictions spirituelles, nous allons les donner. Il y a la formation, nous en avons parlé. Même avant d'orienter nos enfants, nous devons tenir compte que c'est Dieu qui sait le lendemain. Les choses que nous voyons aujourd'hui, dans 20 ans, c'est-à-dire le temps de nos enfants là, beaucoup de choses auront changé. Pendant qu'aujourd'hui nous pensons que ce sont les domaines que nous pensons qui sont porteurs, il y aura d'autres domaines qui vont apparaître que nous ne connaissons pas encore. Nous devons compter sur Dieu pour orienter les enfants. Nous devons détecter leurs aptitudes. Priez Dieu pour que Dieu les oriente. Nous devons payer le prix, comme on a dit, pour être bien formés. Je vais prendre un exemple. Demain, il n'y aura plus l'argent liquide. Peut-être dans 50 ans, il n'y aura plus l'argent là qu'on palpe. Il y a une espèce d'argent qu'on est en train d'introduire doucement, doucement dans le monde économique. On l'appelle Bitcoin, l'argent numérique. Je ne sais pas comment on peut traduire ça. Mais il faudrait que les gens, dès maintenant, cherchent à maîtriser pour que demain, ça ne soit pas comme certaines personnes avec l'Android. Aujourd'hui, même les vieilles mamans sont obligées d'aller à l'école de l'Android, du téléphone portable. Pour s'en sortir, donc la formation est nécessaire. Nous devons croire aux données. Dieu nous a montré son exemple. Jean 3, 16. Il a donné son fils unique, tout ce qu'il avait, pour nous récolter. Nous tous, les milliards et les milliards d'enfants de Dieu qui existent, c'est parce que Dieu a donné tout ce qu'il avait, son Fils unique, nous montrant un exemple à imiter. Tel père, tel fils, tel père, telle fille. Nous devons imiter notre Père en donnant, en étant des donneurs. Je ne vais pas insister sur le donner. Je vais passer directement à s'aimer. Parce qu'il y a donner, mais il y a aussi s'aimer. C'est un autre mode d'activation des bénédictions. S'aimer financièrement, s'aimer matériellement, s'aimer en termes de temps. 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 15. Ce passage nous enseigne. Là-bas, l'apôtre Paul nous fait comprendre que donner est une manière d'économiser. Qui sème peu, moissonne peu. Qui sème abondamment, moissonne abondamment. C'est une affaire de cœur. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu nous sauve, disait Éphésiens 2, vers les versets 7 et 8, pour que nous accomplissions des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toutes sortes de libéralités, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Quand vous faites de bonnes œuvres, les bénéficiaires de ces bonnes œuvres font monter des actions de grâce et des louanges à Dieu. Voilà ce qui réjouit le cœur de Dieu. Ces bénéficiaires sont contents parce qu'ils voient en vous l'instrument que Dieu a utilisé pour eux. Et il prie pour vous, nous dit le verset 14. Galates 6, verset 7, nous dit: chacun moissonnera ce qu'il aura semé. Et Galates nous exhorte à s'aimer pour l'esprit et non pour la chair. Au verset 8, Galates 6, verset 8: s'aimer pour l'esprit et non la chair. Et nous moissonnerons au temps convenable. Verset 9. Ça veut dire qu'il y a un temps d'attente. Même quand on a semé, il faut attendre. Il y a le temps de la moisson. Et la moisson est toujours plus grande que ce qu'on a semé. Nous devons semer dans un esprit sacrificiel. Et à contre-temps ou à temps. L'apôtre Paul dit de semer à temps et à contre-temps. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu. Les chrétiens de Macédoine étaient affaiblis et pauvres, mais ils ont contribué pour l'œuvre de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont semé à contre-temps. Ils n'ont pas semé parce qu'ils avaient. Ils ont, bien qu'ils n'en avaient pas, ils ont contribué. Un autre mode, c'est le sacrifice. Le modèle de sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. On peut voir un autre exemple. L'histoire de cette femme qui a sacrifié un vase de parfum d'albâtre dans Matthieu 26 et dans Luc 7. Cet exemple est là pour nous édifier. Quand on vous dit le coût, ce que valait, pouvait valoir aujourd'hui le prix de ce bol de parfum. Bon, Judas avait raison peut-être de se plaindre dans ce sens-là, puisqu'il disait qu'on pouvait vendre pour s'occuper des pauvres. Dans Luc 8, nous voyons des femmes, disciples. On nous a beaucoup présenté les disciples hommes, mais derrière Jésus, derrière le Seigneur, il y avait des femmes, et c'est elles qui finançaient la mission. C'est Luc chapitre 8 qui nous le dit. Il y avait, les noms de ces femmes sont cités là-bas. Elles soutenaient la mission par leurs biens matériels. Passez quelques exemples, sans oublier, et c'était des sacrifices. Elles n'attendaient rien. D'ailleurs, même les païens font les sacrifices parce qu'ils attendent quelque chose de leurs idoles. Voilà. Enfin, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Être reconnaissants envers Dieu pour jouir des bénédictions. Le Seigneur nous a déjà donné beaucoup de bénédictions. Nous devons dire merci avant de tendre la main. Nous ne sommes pas des animaux qui vivent seulement pour tendre, pour manger, dormir, se divertir, se reproduire. Nous ne sommes pas des animaux pour être ingrats, pour ne pas être reconnaissants. Nous devons ressembler à celui qui nous a créés à son image, par notre reconnaissance. Et nous sommes à la fin. Ça, c'est le dernier thème de ce marathon d'enseignement et de prière. Nous devons dire merci à Dieu. On va le faire mercredi par les chants, par les louanges, par la danse, ainsi de suite. Mais on va aussi le faire par les témoignages. Dieu a fait beaucoup de choses pendant chaque jour de ces 30 ou 29 jours. Nous devons témoigner. Et si tu refuses de témoigner, tu es en train de priver quelqu'un d'une bénédiction. Nous devons apporter des offrandes, même des offrandes sacrificielles. Préparons bien nos offrandes sacrificielles. Bien-aimés, dans le manuel, nous avons également vu, on a parlé de la dîme, mais je voudrais dire que il y a un problème avec la dîme. Il y a un problème. Vous ne pouvez pas être béni parce que vous avez donné la dîme. La dîme ne vous appartient pas. La dîme, c'est la part de Dieu. Tu cultives le champ de quelqu'un. Tu récoltes. Et tu dis que tu as donné sa part. Tu dois payer le frais de location du champ. Donc quand tu remets ce que le propriétaire a de droit, tu n'as rien fait. Tu n'as même pas commencé à donner. Parce que c'est un prélèvement, c'est un impôt. On peut pas, quelqu'un ne peut pas compter sur la dîme pour dire qu'il attend des bénédictions. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont les esclaves ou les adeptes de la dîme, je vais leur dire certaines choses. Il y a 4 types de dîmes. La dîme de type 1 servait à l'entretien du temple, servait à l'entretien des sacrificateurs, des lévites. Bien. La dîme de type 2, toi-même qui dégages la dîme, tu le mangeais avec ta famille pour montrer que tu appartiens à Dieu. La dîme de type 3, c'était pour s'occuper des orphelins, des veuves, des étrangers, pour dire des ayants besoin. La dîme de type 4 a été introduite lorsque le peuple a demandé un roi. Dieu l'a dit, le roi doit prélever la dîme pour faire fonctionner son royaume. Il y a donc 4 types de dîmes. Aujourd'hui, les impôts et les taxes que nous payons à l'État représentent la dîme de type 4. La dîme de type 1, Jésus l'a remplacée. Il y a une parole dans les épîtres. qui disent que celui à qui on prêche l'évangile doit nourrir, doit prendre soin de celui qui prêche l'évangile. La dîme de type 2, celle qu'on mangeait personnellement, elle n'existe plus. Donc, et la dîme, elle a commencé chez les païens. Abraham a connu la dîme parce qu'il était un païen. Ça se faisait chez les païens. Ça a été copié, introduit chez les juifs. Abraham a fait volontairement la dîme. Jacob dit à Dieu, lorsque son frère le pourchasse, si tu me sauves de cette chose, je vais te donner la dîme de tout. Donc, on posait même les conditions à Dieu pour le faire. Dieu n'a introduit la dîme dans la loi qu'au temps de Moïse. Et simplement parce que ce que le Seigneur avait prévu pour s'occuper des serviteurs de Dieu, parce que le peuple de Dieu a commencé à être divisé au moment où on a institué les sacrificateurs, les lévites. Il fallait donc, on a partagé les territoires, on ne leur a pas donné. Et on a institué des classes. Il fallait quelque chose pour s'occuper d'eux. Dieu a dit, quand on fait les sacrifices, une partie des sacrifices, ils doivent prendre pour faire leur part. Et pour compléter donc, il a ajouté la dîme. Ça, c'était sous la loi. Mais nous devons comprendre qu'avec la nouvelle alliance, les choses évoluent. Même la dîme a évolué. Jésus n'a pas supprimé la dîme, mais il lui a donné une autre dimension en le déployant. La diaconie que nous faisons en tant que chrétiens remplace la dîme de type 3 qu'on faisait la troisième année pour s'occuper de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, des démunis. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui redevenir des juifs pour être soumis à la dîme. Mais, je dis bien, le Seigneur n'a pas supprimé la dîme. Il y a des gens qui ont un cœur bizarre. Le Seigneur utilise la dîme souvent pour discipliner de telles personnes. Les gens qui aiment les cupides, les chiches, le Seigneur peut les soumettre à la dîme. Parce que le Seigneur fait ce qu'il veut. La dîme entre maintenant dans ce qu'on appelle les offrandes spéciales. Le Seigneur peut te dire, toi, tu vas me donner telle chose. Parce qu'il te connaît. Donc, la dîme a perdu son caractère obligatoire. Nous devons le savoir. Parce qu'il y a des gens, ils voient ce qu'on fait ailleurs, ils copient seulement. Ils ne se posent pas la question. Comment cette église a réfléchi pour ne pas introduire la dîme dans ses pratiques? L'Esprit de Dieu éclaire les gens. Si quelqu'un n'est pas convaincu de ce que je dis, qu'il prie, qu'il demande au Seigneur Saint-Esprit de lui révéler les choses par rapport à la dîme. Il le fera. Ne comptez pas sur la dîme pour être béni. Dans tous les cas, vous pouvez me citer Malachie 3 et ceci, cela. Vous sortez du contexte de Malachie. Vous n'êtes pas dans le contexte de Malachie. Donc, les offrandes, c'est une semence. Mais la dîme n'est pas une semence. Parce que les offrandes vous appartiennent. Mais la dîme ne vous appartient pas. Elle ne peut pas vous bénir. Nous allons enfin parler rapidement du dernier point, la santé divine. Avant d'entrer dans la prière. Le concept de santé divine est un peu plus élargie que la guérison divine. Parce que la santé divine intègre en même temps la guérison divine et les mesures préventives que nous devons avoir, observer pour ne pas tomber malade. Au fait, la santé divine, c'est quoi? C'est vivre sans maladie, sans colère, sans anxiété, sans amertume, ainsi de suite. C'est avoir la tranquillité d'esprit ou être en paix. Les richesses, les bénédictions matérielles ne peuvent pas apporter cette paix. C'est Dieu qui la donne. C'est le Seigneur qui met la paix. Les gens sont milliardaires, mais je les dépasse parce que j'ai la paix. J'ai la paix du cœur. Amen. Toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu as cru en Jésus, tu as la paix du cœur. Mais il y a les milliardaires, ils n'ont pas cette paix. Parce que et les gens qui sont riches et que leur argent a une couleur, ils ne peuvent pas avoir la paix. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait pour avoir cet argent. Ils savent. Ils ont escroqué. Ils ont torturé les gens. Ils ont trafiqué à gauche ou à droite. Et certains dribblent même les impôts. Ils ne payent pas les impôts. Il y a beaucoup de choses que les gens font pour être riches. Et quand ils ont fait ça, ils ne peuvent pas avoir la paix. Tu ne peux pas avoir la paix quand tu as le cœur chargé. Et quand quelqu'un a le cœur chargé ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup meurent sans donner leur vie à Christ parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir un cœur ouvert pour recevoir la parole. Il y avait autre chose dedans. Dieu veut que nous jouissions de la santé en abondance et d'une longue vie. C'est dans le manuel. En Christ, nous avons été bénis de la santé divine et nous avons aussi reçu la puissance de guérir les malades. Ça aussi, c'est vrai. À la croix, l'expiation, c'est-à-dire le fait que Jésus s'est donné pour enlever nos péchés, c'est un trésor. Quand Matthieu 8, 17 dit, Christ a pris sur lui nos infirmités et nos maladies, ça traduit cela. Quand Ésaïe 53, verset 4 dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs, il s'est chargé. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est un trésor. Bien-aimé, quelqu'un a dit, le Seigneur Jésus n'a pas été malade de toute sa vie. C'est vrai. Bon. Mais nous devons, par rapport à ce point, faire attention. Parce que nous voyons des chrétiens qui sont malades. Même l'apôtre Paul était malade, non? L'apôtre Paul était malade. Le pasteur Épaphrodite était malade. Timothée même était malade. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul lui prescrit quelque chose pour calmer de temps en temps ses douleurs. Et vous, vous êtes plus que les apôtres. Vous pensez que vous êtes anti, je ne sais pas comment dire ça. La maladie ne peut pas vous toucher. Vous êtes plus que Paul. La maladie ne va pas jamais vous toucher. Vous mentez. Oui, je suis béni. Ton sang a coulé. Les chrétiens, il y a des raisons qui expliquent pourquoi les chrétiens peuvent tomber malades. Normalement, le chrétien ne devrait pas être malade. Mais si on considère, est-ce que les chrétiens font le sport deux fois par semaine? Est-ce que les chrétiens savent comment se nourrir? Est-ce qu'ils savent comment combiner les aliments pour être en santé? Est-ce qu'ils savent que en tout temps, ils doivent avoir les fibres, les vitamines, les sels minéraux, telles choses? Manger beaucoup de légumes, combien mangent les légumes? Combien? On dit que la botte est très chère. Il y a beaucoup de choses qui expliquent pourquoi un chrétien peut être malade. Bon, généralement, pour les autres raisons, il y a ça dans le manuel. On a listé. Mais nous ajoutons aux listes du manuel, nous ajoutons ce qui est dénoncé dans 1 Corinthiens 11, les versets 22 à 30, où il est dit que si tu prends indignement la Sainte Cène, tu es au risque. Prendre indignement la Sainte Cène, le pasteur dit que certains sont même morts pour avoir pris la Sainte Cène. Ils ont pris indignement, comment? Ça veut dire que quand on dit « Je suis né de nouveau, j'ai cru », même eux aussi, ils viennent comme ils disent qu'il n'y a pas de preuve. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de preuve? Quand tu vas aller prendre la Sainte Cène et tomber, et mourir même, tu vas comprendre qu'il y avait les preuves.
Que tu es bon, que tu ne changes pas, que tes bontés sont infinies pour tous ceux qui se croient en toi.
Il y a des maladies, les maladies qui perdurent, qui torturent les gens.
Tu es bon,
ça peut aussi, même si tu es chrétien, dans Marc 5, 26, on parle d'une femme. Le passage dit qu'il a été mangé, ruiné par les médecins. Et ça, ça peut influencer la foi de quelqu'un. Ça peut déranger par rapport à la foi. Quand les hôpitaux vous ont ruiné et qu'il n'y a pas de solution, ça peut porter sur votre foi. Donc voilà des raisons qui peuvent justifier que des chrétiens tombent malades. Et pour ceux qui disent que le chrétien ne doit jamais être malade, j'ai dit c'est bien, vous êtes plus que Élisée, non? Élisée est mort de maladie. Le prophète Élisée, plus puissant que Élie, est mort de maladie. Mais sachez une chose, bien qu'il soit mort de maladie, même sa dépouille avait encore l'onction de l'Esprit de Dieu. Puisque son cadavre, ou bien les ossements d'Élisée, ressuscitaient les morts. Ça veut dire qu'on ne peut pas entrer dans les choses de Dieu avec la logique. Ça défie les lois de la nature. On n'y entre pas avec la logique. Quelques conseils à suivre pour jouir d'une santé divine. 1. Mener une vie de sanctification. 2. Manger la nourriture appropriée. Chercher les informations chez les diététiciens, les pharmaciens. Ils vont vous dire comment on fait pour bien manger. Éviter les aliments qui vont aller détruire votre organisme. Il y en a beaucoup. Quand on dit aux femmes, pas de cubes, pas de sacs plastiques, vous conservez, vous préparez une bonne nourriture. C'est encore chaud, vous mettez dans le plastique. Le plastique contient des éléments cancérigènes. La chaleur fait que ces éléments sortent et entrent dans la nourriture que vous avez préparée. Et plus tard, les gens ont le cancer, c'est juste cela. Par l'ignorance, non. Voilà. C'est normal. L'exercice physique, bien-aimé, au moins une fois par semaine. Moi, j'ai demandé à Dieu. Je veux être en forme jusqu'à 90 ans. Parce que je veux te servir Dieu ne tient pas compte de l'âge. Dieu a appelé Abraham à 75 ans. S'il n'était pas un sportif, il ne pouvait pas faire sa mission. Si vous voulez servir Dieu, inscrivez-vous, allez faire le sport. Il faut se reposer. Il faut se reposer. Il y a les gens qui ne se reposent pas. Je connais un enfant de Dieu puissant. Il est mort au travail à Kribi, à un séminaire. Il tombe comme ça, il meurt. L'argent que tu cherches là, ça va servir à qui? À quoi? Repose-toi un peu. Il y a le temps pour ça. Même Dieu s'est reposé, donc tu es plus fort que Dieu. Et nous devons prendre l'habitude de déclarer dans nos vies. Déclarer la parole de Dieu. Job 22, verset 28 dit: à vos résolutions répondra le succès. Quand vous évoluez dans l'intimité avec Dieu, à un moment, ce qui sort de votre bouche, Dieu le réalise. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, et c'est pour ça que l'apôtre Paul conseille: soyez rempli du Saint-Esprit. C'est même énorme, c'est même pas un conseil. Soyez rempli du Saint-Esprit. Quand vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, c'est dangereux. Parce que l'Esprit de Dieu ne vous contrôle pas. Mais quand vous êtes rempli, l'Esprit de Dieu vous contrôle. Les paroles qui sortent de votre bouche, Dieu les approuve. Et c'est pour ça que vous pouvez voir les gens, ils parlent, ça agit. Parce qu'ils sont dans la bonne condition. Et ça se recherche chaque jour. Il y a des gens qui ont tellement peur. On dit: soyez remplis du Saint-Esprit. C'est toi qui désires et qui demandes à Dieu. Chacun, nous ne pouvons pas nous arrêter à l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, tu es comme une source. Ça goûte comme ça. Est-ce qu'il y a un petit filet d'eau? C'est juste pour boire. On peut encore faire quoi avec? Mais le Seigneur attend que tu deviennes un ruisseau, une rivière, un fleuve, une mer, un océan. Qui parmi nous connaît le lendemain? Pendant que Dieu t'attend à être un fleuve ou une mer, tu es là une petite source qui tombe de petites gouttes chaque jour. Parce que tu ne veux pas être rempli du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'étapes. L'onction vient même après. Après seulement. Tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Tu attends quoi? C'est un don de Dieu, c'est vrai, mais Dieu a mis les conditions. Tu remplis et il te donne. Il te donne. C'est important, bien-aimé. Nous ne sommes pas là seulement pour être sauvés et aller au ciel. C'est quand tu vas être rempli que le Seigneur va passer par toi et faire beaucoup d'autres choses. On dit que tu débordes. Quand tu débordes, c'est les autres qui profitent. Nous devons savoir ça. Bien-aimés, nous allons maintenant entrer dans la prière. Nous entrons dans la prière. Un chant. Te dis merci, comment te dis merci, comment te dis merci, ô Seigneur, autant de miracles que tu opères en moi. Comment te dire merci, ô Seigneur? Bien-aimés, nous allons nous lever.
Et si j'entends ta voix, je
Une fois de plus, dis à ton voisin, tu es béni mon frère ou ma soeur.
Mais à chaque fois, je regarderai à toi, car j'essaie.
Nous allons prier maintenant par rapport à la bénédiction. Nous allons commencer par la bénédiction matérielle. Nous allons finir par la guérison divine. C'est ce qui a été proposé par le manuel. Demandons au Seigneur qu'il nous accorde la force pour produire la richesse, qu'il nous donne l'esprit de créativité, qu'il nous donne d'être ceux chez qui on vient chercher le travail, qu'il nous donne l'onction de créativité, afin que nous soyons des solutions aux problèmes des autres. Demandons-lui d'éliminer toute pauvreté dans notre vie et qu'il nous fasse rencontrer les personnes qui doivent nous aider dans cette démarche. Demandons-lui le courage et l'humilité pour saisir toutes les opportunités de formation qui nous sont offertes. Maintenant, nous allons prier pour la guérison divine. Matthieu 15, le verset 13 dit, « Toute plante que n'a pas plantée, mon Père céleste sera déracinée. Approprie-toi cette parole. » S'il y a quelque chose planté dans ta vie, qui ne vient pas de Dieu, cette chose sera déracinée. Jérémie 33, verset 6 dit, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Jérémie 33, verset 6. Dis merci au Seigneur pour la puissance des guérisons disponible à la croix.
Tel qu'on peut voir aujourd'hui, un monde de douleur, un lit de terreur,
dans le sang de Jésus.
J'avais cherché le jour.
Répétez après moi. Seigneur, c'est ta volonté que je croisse à tous égards.
Les yeux fermés, ne sachant pas où.
Que je guérisse et sois en bonne santé. Au nom de Jésus, je crois, Adonai Rophé, que tu veux me guérir, car cela fait partie du salut que j'ai reçu en Christ Jésus. Puisque Christ a pris sur lui toutes les infirmités et les maladies, et les souffrances et les douleurs. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ. Sur la base de ces paroles, que toute chose endommagée dans ma vie soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Que chaque organe mort dans mon corps ressuscite maintenant au nom de Jésus. Pour les organes détruits, je reçois des pièces de rechange du ciel au nom de Jésus-Christ. que toute plante dans ma vie que le Père n'a pas plantée soit évacuée, déracinée et évacuée. Au nom de Jésus, corps étranger présent dans mon corps, sois maintenant au nom de Jésus-Christ et sois détruit au nom de Jésus-Christ. Je lis et je commande à tout esprit, à tout démon caché derrière cette infirmité ou maladie, de me quitter à l'immédiat au nom de Jésus-Christ. J'inverse tout dysfonctionnement dans mon corps au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu et le sang de Jésus enlève toute souillure, toute impureté de mon corps, de mes nerfs, de mes os, de mes muscles, de mes organes, de mes articulations, de ma peau, au nom de Jésus. Que tout dépôt de l'ennemi présent dans mon corps sorte maintenant au nom de Jésus. Tout poison de nuit sorte au nom de Jésus. Tout implant sorte au nom de Jésus. Tout fibrome ou myome sorte au nom de Jésus. Toute marque maléfique sorte maintenant au nom de Jésus. Tout point de contrôle de Satan sorte maintenant au nom de Jésus. Et sois anéanti au nom de Jésus-Christ. Toi, mon corps, que chacun tape son corps. Que toi, mon corps, je t'ordonne de rejeter tout cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Rejette au nom de Jésus. Si ça vient comme la toux, tous. Si c'est le crachat, crache. Si tu veux même vomir ou aller aux toilettes, vas-y. Mais qu'ils sortent. Ordonne à ton corps de les rejeter. Prions, prions. Ordonnez-leur de sortir. Demandez à votre corps de les rejeter. Que le feu de Dieu consume dans mon corps toute tumeur, tout dépôt de mari et femme esprit, tout dépôt de nourriture nocturne, toute racine de maladie héréditaire, toute flèche satanique reçue au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse de moi un feu dévorant. Parce que lui, mon Père, est un feu dévorant. Inaccessible aux maladies et aux démons. Au nom de Jésus-Christ, je brise au nom de Jésus dans ma vie toute influence d'occultisme, de sorcellerie, d'esprit familier. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, mets ta foi en œuvre et saisis ta guérison. Déclare maintenant, je touche Jésus par la foi et je reçois ma guérison totale. Au nom de Jésus-Christ, dis merci à Dieu de t'avoir visité.
Jusque dans les vallées, dans les champs, les campagnes, les chemins.
Nous allons terminer par quelques déclarations prophétiques. Vous répétez après moi. Ma vie est féconde et le demeurera. Je suis un chrétien productif à tous égards. Par la faveur du Très-Haut, je ne serai pas ébranlé par la puissance de la résurrection. Les choses mortes de ma vie, ressuscitées au nom de Jésus. Par la faveur du Très-Haut, j'atteindrai le niveau que mes ennemis ont juré qu'ils ne devaient pas atteindre. Au nom de Jésus-Christ, par la faveur du Très-Haut, j'avance en sûreté. Au nom de Jésus-Christ, par la faveur du Très-Haut, le trésor caché dans les lieux célestes seront transférés à mon compte. Au nom de Jésus, par la faveur du Très-Haut, les hommes me poursuivront pour me bénir. Par la faveur du Très-Haut, je récupère 10 fois tout ce qui a été gâché dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Notre Dieu et notre Père, merci pour ces moments où tu nous visites et tu apportes tes miracles, tu apportes la délivrance, tu apportes les guérisons, tu apportes la prospérité, tu apportes ta paix dans nos vies. Merci au notre Dieu pour le déploiement de ta puissance pendant ces 30, pendant ces 28 jours dans nos vies. Nous te célébrons, nous te magnifions, ô notre Dieu, que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen.